LGBTQIA+.
Tous les mois, un sujet LGBTQIA+, avec une association, un collectif, un représentant du territoire, toujours entre pédagogie et militantisme. Et on n'oublie pas, Queer Station, c'est le troisième vendredi du mois, de 18 à 19h sur HDR 99.1 FM et en replay sur YouTube et Spotify. L'épisode numéro 4 de cette émission queer sur HDR, le mix des cultures. Je vous souhaite donc la bienvenue, on va être ensemble jusqu'à 19h et aujourd'hui on reçoit Cassandre et Josépha de l'association Fierté Colorée. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous dire vos rôles au sein de l'asso et puis depuis combien de temps vous avez rejoint Fierté Colorée ?
Du coup, moi, c'est Cassandre. Je fais partie de Fierté Colorée depuis maintenant la fin d'année 2021 à peu près. Actuellement, je fais partie des membres élus au collège de gestion de l'association.
Super.
Et moi, c'est Josépha. Donc, je suis à Fierté Co depuis novembre 2024 et au collège depuis cette année. Donc, pareil, élu comme membre du collège.
Alors, on y reviendra en détail pendant l'émission, mais en quelques mots, c'est quoi les valeurs et les actions de Fierté Colorée ? D'abord, les valeurs, surtout.
Évidemment, on est une association LGBT, donc on se regarde, évidemment, on soutient toute la plupart des revendications LGBT, voire toutes. Je ne sais pas si j'ai une liste exhaustive dans la tête. Évidemment, on est aussi une association féministe, antiraciste, antivalidiste, body positive, de gauche, même si on est apartisan, bien sûr. Etc, etc. C'est un peu dur de tout résumer parce que forcément, par nos actions, on a beaucoup de valeurs, mais qui de toute façon transparaissent au final dans nos actions. Quoi.
Oui, donc c'est l'intersectionnalité dans toute sa splendeur, Fierté Colorée. Pour autant nos auditeurs,
qu'on peut, en tout cas.
l'intersectionnalité, si vous voulez définir rapidement ou si vous voulez que je le fasse, en gros, c'est l'idée de ne pas lutter que pour soi-même et ses propres revendications, mais aussi un petit peu celles des autres. D'où le fait que tu parlais de l'antiracisme, par exemple, le féminisme. Est-ce que c'est aussi le cas sur l'inclusion, les personnes en situation de handicap, tout ça ?
Tout à fait.
Autant qu'on peut, ouais.
Mais non, mais par exemple, sur la Pride, demain, sur le village de la Pride, évidemment, on a invité le GAF, le groupe d'action féministe. Toutes les luttes contre les discriminations, ça se rejoint au sein des luttes LGBTI+. Et c'est évidemment avec plaisir et c'est évidemment avec aussi toute notre force qu'on va lutter contre le sexisme, contre le racisme. Et on se définit, nous, comme association de gauche aussi, parce que c'est évidemment, ça fait partie de nos principes de lutter contre l'extrême droite, dont on peut voir, quand elle est au pouvoir sur certaines municipalités, cherche tout de suite des noises aux associations LGBT, annule des prides, se permet d'effacer de la visibilité. Donc c'est très problématique pour nous, pour notre survie. Donc on a des principes assez forts.
Du coup,
pour revenir sur la question du handicap plus spécifiquement, qui était la question. Déjà, on est plusieurs bénévoles au sein de l'association qui sommes handicapés de diverses manières. Pour la Pride, évidemment, on a des dispositifs d'accessibilité, notamment toutes les prises de parole seront interprétées en LSF. On a un véhicule PMR qu'on essaie de rendre plus sympa qu'un camion fermé, puisque c'est le train touristique de Rouen. Le village associatif restera ouvert pendant la marche pour proposer des activités aux personnes qui ne souhaiteraient ou ne pourraient pas faire la marche avec nous, ou même aux jeunes enfants, etc., pour qui ça serait compliqué. On a des masques FFP2 qu'on fournit gratuitement et qu'on encourage très très fort à porter tout au long de la marche. Et bien sûr, nos équipes bénévoles sont disponibles sur sollicitation pour fournir de l'eau, du sucre, des madeleines, des bouchons d'oreilles, un peu ce qu'on peut, quoi. Et puis, au sein de l'association, malheureusement, le local principal où on fait nos activités n'est pas accessible PMR. Je pense que je n'ai jamais vu un local aussi peu accessible PMR dans ma vie. Il y a une marche à l'entrée, une marche au milieu de la pièce, une marche au fond, des escaliers étroits. Mais on est en train de demander, on essaye de demander à trouver d'autres locaux, justement, qui, eux, soient accessibles PMR. Parce que là, c'est pas trop ça.
C'est une vieille maison de ville et c'est très problématique pour ça, justement. Mmh. Et c'est vrai que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui disposent d'un local qu'ils souhaitent mettre à disposition gracieusement, qui est compatible PMR avec tout en rez-de-chaussée, ou en tout cas des accès étage assurés pour les personnes en fauteuil, ce serait absolument génial.
Alors on va passer notre premier son de la soirée dans Queer Station et le nom de Fierté Colorée, une association qui organise donc la Pride de Rouen, ça m'a fait penser tout de suite au titre Proud de Heather Small et la version remixée par Peter Presta, c'est ce que je vous propose tout de suite. I look into the window of my mind. Reflections of the fears I know I've left behind. Out of the ordinary, I can feel my soul ascending. I'm on my way, can't stop me now. Then you can do the same. You can do the same. Et c'est le retour dans Queer Station, cette ce quatrième épisode avec l'association Fierté Colorée qui est avec nous en plateau. On va retrouver Cassandre et Josépha. Et donc pour cette première partie, on va un peu aborder les missions de Fierté Colorée. Parce qu'on le sait, la Marche des Fiertés et son village associatif vont se tenir demain à Rouen avec comme QG le Square Verdrel. On en a parlé sur HDR dans la matinale de mercredi et on reviendra en fin d'émission sur le programme. Mais Fierté Colorée mène aussi beaucoup d'autres actions tout au long de l'année et c'est un petit peu de ça qu'on va parler maintenant. Alors le gros truc c'est quand même des moments de rencontre, il y a quand même pas mal de moments conviviaux ou pour aborder des thématiques dans un milieu safe on va dire. Hein.
Oui tout à fait puisque du coup on organise je dirais juste entre une dizaine, douzaine de temps d'accueil par mois. Alors ça peut être des temps d'accueil conviviaux, généraux, ouverts à tout le monde comme on fait tous les mercredis. Ça peut aussi être des temps qui vont être dédiés plutôt à certains publics plus spécifiques, notamment dans des temps d'accueil pour les demandeurs et demandeuses d'asile LGBTI, pour les personnes transgenres, pour les parents de personnes LGBT, etc. Donc on essaie de s'adapter en fait à la demande qu'on reçoit principalement dans l'objectif déjà lutter contre l'isolement qui est un souci pour de nombreuses personnes LGBT, mais aussi pour accompagner, informer, rassurer, orienter, s'entraider, faire des rencontres, puisque évidemment, lutter contre l'isolement, c'est aussi faire des rencontres. Et en fait, créer du lien entre les gens et créer communauté, au final.
Alors, c'est quoi justement les besoins, notamment pour les personnes LGBTQIA+, en demande d'asile sur Rouen et sa métropole? Pourquoi il y a ce besoin-là spécifique, par exemple?
Déjà, le besoin, c'est d'avoir une terre d'accueil, puisque les personnes qui viennent ici sur des questions LGBT sont souvent en danger dans leur pays. Elles peuvent être en danger de mort. Donc, elles viennent ici chercher un refuge. Et ensuite, plus spécifiquement, nous, notre travail pour accueillir ces personnes-là, justement, c'est de faire en sorte qu'elles puissent déposer leur dossier dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a une difficulté supplémentaire par rapport aux demandes d'asile classiques quand on est une personne LGBT, c'est qu'on doit en plus prouver qu'on est une personne LGBT, c'est-à-dire qu'on doit prouver son homosexualité, et on doit généralement, il faut donner un récit à un juge qui va essayer de juger si on est homosexuel ou pas, qui va essayer de juger si on est une personne trans ou pas, et souvent ils attendent des faits, des chronologies précises, et de justifier des choses qu'on ne justifie jamais quand on est une personne homo. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire un matin, tiens, je me suis réveillé, c'était en 2017, et il était 8h30, j'ai un peu comaté dans mon lit, et tout d'un coup, pouf, je me suis dit, je suis gay ou je suis lesbienne. Non, ça n'arrive pas comme ça, mais en fait, il faut constituer des récits comme ça, et c'est un peu compliqué. Et quand on arrive, qu'on est perdu, qu'on a du mal à s'insérer, à trouver les mots justes, parce qu'aussi les cultures sont différentes, et les mots qu'on utilise ici ne sont pas toujours les mêmes pour décrire des situations similaires sur les questions LGBT, il faut de l'aide et il faut réussir à comprendre soi-même comment on se situe au sein d'une culture qui est ici et au sein d'un processus juridique qui est extrêmement complexe.
Donc c'est une vraie aide là qui est vitale, qui est apportée à ces personnes en demande d'asile parce que LGBTQIA+. Il y a aussi du coup un groupe d'entraide trans non binaire intersexe où là aussi, hein, on le rappelle, il y a de gros besoins de solidarité, d'adelphité. Est-ce que c'est un moment là aussi lourd en émotions, fort en solidarité?
En fait, un peu comme tous nos ans d'accueil finalement. En tout cas, en l'occurrence, les groupes d'entraide trans non binaire intersexe, ils ont lieu deux fois par mois. Et on accueille à peu près le même nombre de personnes à chaque fois, pas toujours les mêmes personnes bien sûr, mais en tout cas c'est une fréquentation qui ne baisse pas, un peu au contraire, moi depuis que je fais partie des bénévoles qui animent ces temps de rencontre, il y a de plus en plus de gens, avec notamment un besoin d'orientation et d'accompagnement de plus en plus important. Et à une époque, on recevait de plus en plus de parents aussi qui étaient en charge de réponses à leurs questionnements quant à leurs enfants qui venaient de faire un coming out trans, etc. Et c'est pour ça qu'on a pu mettre en place le temps d'accueil pour les parents de personnes LGBT, parce qu'on a de plus en plus de parents sur les temps dédiés aux personnes trans. Et c'est pas des temps qui sont dédiés aux parents, malheureusement, donc on pouvait pas trop les accueillir. Mais oui, c'est des choses qui viennent de plus en plus, d'autant plus que le climat politique au regard des personnes trans n'est pas des meilleurs et n'évolue pas vers le positif, malheureusement. Ce qui insécurise beaucoup de gens et qui... Il y a un certain nombre de personnes qui, du coup, ne souhaitent pas faire leur coming out ou qui souhaitent être le moins visible possible, mais qui ont quand même un besoin de communauté pour ne pas se sentir isolé, pour voir qu'on peut être heureux déjà en tant que personne trans. Il y a plein de gens qui n'imaginent que ce n'est pas possible. Et être accompagné, trouver communauté, là aussi, en fait, surtout. Et de l'aide pour faire cette transition. Parce que ce n'est pas forcément très simple à Rouen.
Et pour appuyer sur le fait que ce n'est pas toujours évident de se sentir en sécurité dans l'espace et que c'est important d'avoir des endroits où on puisse se retrouver quand on est une personne LGBT, je vais prendre un exemple pas plus tard que ce matin, vers 2h du matin, au Théâtre des Arts, puisqu'en fait, pour la Marche des Fiertés, on peint les passages piétons aux couleurs des Fiertés. Et vers 2h du matin, on était arrivé au point, au dernier point, qui est le Théâtre des Arts, où nous avons repeint un drapeau trans et un drapeau aux couleurs arc-en-ciel. Et il se trouve que une personne a profité un petit peu. Il y a des jeunes qui étaient contents de nous voir et qui ont commencé à nous parler. Et quelqu'un en a profité pour se pencher et nous piquer du matériel pour nous empêcher de continuer à peindre. Il y en a d'autres qui ont carrément agressé une personne qui était là. Évidemment, parce qu'elles n'ont pas envie de voir des personnes LGBT dans l'espace public et qu'elles ne sont pas très favorables à notre cause. Et je passe sur les insultes qui ont pu être proférées, PD, gay, on va aller sur le sus ma bite, des propos pas très agréables. Et on a même un camarade qui a failli se faire écraser par quelqu'un qui n'était pas content en voiture et qui voulait gentiment nous empêcher de faire notre travail.
Je présume que du coup, dans ce type de situation, heureusement qu'il y aura des temps conviviaux pendant et après cette Pride pour pouvoir se remettre aussi de ces LGBT-phobies en fait, qui se traduisent partout, encore aujourd'hui, y compris en centre-ville de Rouen. Il faut le rappeler. C'est aussi à ça que ça sert de pouvoir justement... se retrouver entre soi et de pouvoir aussi partager ses expériences douloureuses.
Ça sert à se ressourcer et aussi, bon alors je dis ça hier, j'appuie sur le point, c'était un peu compliqué hier, mais en vrai il y a aussi beaucoup de gens qui nous soutiennent, mais on doit, nous, notre travail en tant qu'association, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous soutiennent et que les gens qui... ont une espèce de haine d'ignorance contre nous, perdent au moins cette ignorance et arrivent à nous accepter comme nous sommes. Et ça passe. Les permanences parents cette année, c'est quelque chose, moi je suis très content qu'on ait pu les mettre en place parce que ça permet aussi au sein de la famille, qui est un vecteur de violence aussi dans la communauté LGBT, parce que les parents sont parfois dans le rejet, ça permet de diffuser un petit peu des problèmes, quand je dis diffuser, c'est de les éteindre, et de faire en sorte qu'il y ait des lieux, parce que être bien dans notre association, c'est quelque chose de bien, mais le but du jeu, c'est d'être bien partout, au bout du compte. Et donc, on essaye aussi, en faisant de la prévention, de la sensibilisation, et en attirant des publics qui ne sont pas forcément LGBT aussi dans l'association, il y a des temps qui sont avec des personnes qui ne sont pas du tout LGBT, ça permet de faire un filet de sécurité dans toute la société.
Il y a aussi d'ailleurs des missions autour de l'éducation pour fierté colorée avec des interventions en milieu scolaire ou professionnel. Et donc là, ça prend tout son sens en fait que d'intervenir dans ces endroits pour faire cette prévention et cette pédagogie.
Oui, tout à fait. On intervient. J'ai envie de dire régulièrement. En vrai, c'est pas si régulier que ça.
Dans les
établissements scolaires. Oui, c'est vrai, un peu plus cette année quand même. J'en suis très content. En milieu scolaire, on intervient en fait du collège à. J'allais dire la terminale, mais même en études sup, sans problème, quel que soit le domaine. L'an dernier, par exemple, on est notamment intervenu au sein d'un des cursus de santé de la fac de médecine de Rouen. Et on intervient évidemment en milieu professionnel, notamment, que ce soit de l'emploi privé ou public. On est intervenu, par exemple, auprès de travailleurs sociaux, via un CCS, on a intervenu dans une résidence pour les personnes âgées. Enfin, on fait pas mal de sensibilisation. Et c'est toujours très très cool parce que ça permet aussi de discuter avec des gens qui ne connaissent pas forcément très bien le sujet et qui nous font part en fait de ce que eux perçoivent, de ce que eux savent des questions LGBT. Et c'est des vrais moments d'échange qui sont très très cool. On a, à ma connaissance, et je pense que j'ai fait la quasi-totalité des interventions qu'on a fait depuis 2022, c'est rare qu'on ait des vrais soucis en intervention.
Oui, quand on a les gens en face de soi et qu'on se rend compte de la personne humaine, l'autre n'est plus quelque chose voilà, de un peu en brouillard ou voilà, une espèce d'ombre comme ça qui planerait. Non, on a des vrais gens devant soi et tout de suite l'humain revient, je présume.
C'est ça, et puis ça dépend aussi, je pense, de la posture adoptée. C'est vrai que nous, sur le format, on essaye de ne pas faire un format très descendant, comme si on était des profs qui venaient apporter la bonne parole aux élèves qui sont sur leur bureau coincés devant nous pendant une heure et demie. Et on essaie de faire un truc très participatif pour eux et plus dans un dialogue que dans venez on vient vous donner un cours quoi.
Et donc du coup si on est proviseur ou enfin dans un établissement scolaire ou qu'on est directeur ou patron d'un milieu pro, on peut donc faire appel à vous pour faire des moments de prévention au sein de son établissement, de sa structure, c'est bien ça hein.
Sans ouais, souci, tout à fait. Avec une nuance cependant, c'est-à-dire qu'on évite d'intervenir si c'est une demande suite à un souci en interne. C'est-à-dire qu'on ne veut pas mettre forcément la pression, le stress ou sur une situation particulière qui ça pourrait s'envenimer si on intervient. Donc on le fait.
C'est du préventif.
Voilà, c'est du préventif.
C'est du préventif. Ok. C'est il y a ça. Aussi du coup des actions autour de la culture avec une queerothèque, donc une bibliothèque queer et des rencontres avec des auteurs, des autrices et puis des actions autour de la santé aussi.
Ouais, tout à fait. Côté action de culture, en fait. C'est un peu notre pôle, je veux dire, j'ai envie de dire, le plus diversifié dans le sens où beaucoup d'actions peuvent entrer dedans. Tu l'as mentionné, on a la Queerothèque qui est une bibliothèque d'ouvrages à thématique LGBT, mais pas que. On a aussi des livres féministes, antiracistes, antivalidistes, etc. etc. Et les emprunts sont gratuits, sans condition de résidence. En fait, aux mêmes horaires que l'ouverture de la bibliothèque de quartier qui nous accueille, donc tous les vendredis de 15 à 18 heures. On demande juste un petit numéro de téléphone, comme ça fait 15 ans que vous avez un livre, on peut vous demander coucou, est-ce que vous l'avez fini ou pas.
Non mais c'est trop cool d'avoir aussi, voilà, parce que c'est vrai que quand on veut s'éduquer ou aussi trouver des témoignages de gens qui nous ressemblent, ça peut vite chiffrer, ça peut vite avoir un coup, et puis c'est pas forcément dans toutes les médiathèques ou bibliothèques, hein, donc là on sait que chez vous c'est centralisé, on sait qu'on va avoir de la ressource quoi.
Et puis du coup pour un peu être autour de notre cours et de façon générale de bouquins, on a un book club une fois par mois, alors qu'il n'est pas spécifiquement LGBT. Tout le monde y est bienvenu, les bouquins n'ont pas forcément besoin d'être sur des thématiques LGBT, mais ça nous permet en fait, d'avoir un espace pour parler bouquins, parler lecture, en fait, où on ne va pas vivre des discriminations. Mmh. Et du coup, tu l'as mentionné tout à l'heure, on invite des auteurs-autrices de temps en temps, préférentiellement, surtout des auteurs-autrices françaises, idéalement encore plus locaux, parce que l'idée c'est aussi de soutenir les cultures locales, et après ça peut aussi rentrer dans culture, on rentre aussi des soirées, quand on fait des sorties en ville, quand on fait en fait un peu tout ce qui touche à la culture de près ou de loin.
Que ce soit le cinéma, les performances d'artistes, on essaye de pousser un petit peu toute la culture queer, parce que c'est aussi notre rôle. Et je sais que moi, ça me tient à cœur de pousser un peu, on essaye de favoriser. On a fait un atelier drag il n'y a pas très longtemps, qui a bien marché, qui a bien plu. On aimerait reproduire ça et pousser un peu un collectif à se former, parce que sur Rouen il y a plein de dragues qui sont super, qui font beaucoup de boulot, mais c'est pas assez soutenu malheureusement pour que ça puisse fonctionner et prendre son envol. Donc on essaie de trouver des gens aussi pour améliorer les choses. Et
notamment il y a plusieurs dragues qui ont communiqué récemment sur la difficulté d'organiser des viewing parties pour la prochaine saison de Drag Race, parce qu'en fait elles ne trouvent pas d'établissement qui veulent les accueillir pour faire des shows dans le cadre de viewing parties de façon régulière.
Viewing parties, donc c'est un petit peu des fêtes où on va visionner une émission, là pour le coup, comme certains se retrouveraient dans des bars pour regarder les matchs de foot de la Coupe du Monde qui a lieu actuellement. Et il faut dire que dans le milieu queer, Drag Race, c'est un peu la Coupe du Monde. Hein. oui. C'est l'équivalent presque. Hein.
Et du coup, il y a des difficultés pour organiser des événements, des shows, etc. Parce que, en fait, des artistes, il y en a, et elles sont toutes super. Des lieux pour accueillir des shows, ça, c'est un peu plus compliqué.
Donc, il y a un appel là, il y a un appel si il y a des gens qui savent que leur bar, un établissement, pourrait être sympathique, intéressé, etc. Il ne faut pas hésiter à se rendre sur le site internet de Fierté Colorée, qui peut-être pourra faire du lien, ou vous rebasculer vers les dragues. Voilà, parce que les dragues, il faut les connaître, les dragues locales aussi, hein. Alors que vous les connaissez quand même, je pense, beaucoup plus que la plupart des gens. Donc, ou alors, peut-être sur la Pride aussi.
Il y en aura quelques-unes.
Il y en aura quelques-unes qu'on pourra rencontrer demain. Du coup, c'est l'occasion aussi. Et donc, il y a un dernier volet aussi, moi, qui m'intéressait, c'est la santé. Mais avant ça va être l'heure de notre deuxième pause musicale. Et donc là, un son qui, moi, m'a beaucoup parlé, c'est « Bonjour, docteur », d'une de nos artistes lesbiennes françaises préférées, c'est Oshi.
Bonjour docteur. Bonjour docteur, faut que je crache qu'il m'arrive. Je suis condamné au crash, j'arrive même plus à vivre. J'ai mal au cœur et je craque, putain mon corps se givre. Je vis dans la peur qu'on me traque et que la mort me suive. Putain docteur, je crois que je vais vraiment pas dedans. Je compte mes traumas, j'ai pas assez d'une main. Faut me sauver docteur, parce que là je crois plus en rien. Même notre chien me regarde comme si j'étais plus humain. Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je suis à quel stade du malheur? Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? D'ailleurs docteur, nos amis ont besoin d'un psy. Ils sont en pleurs devant le cabinet aussi. Elle les a envoyés se faire foutre, putain c'est quelle maladie. Je vous jure qu'il y a plus de doute, je crois que c'est une épidémie. Vous ne croirez pas docteur, elle devait porter nos enfants. On allait toucher le bonheur mais elle s'est barrée avant. On avait déjà leur prénom, on avait déjà la chambre. C'est devenu ma prison, on devait la repeindre ensemble. Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je suis à quel stade du malheur? C'était qu'un jeu docteur pour s'amuser à trois. Mais j'étais game over, je pouvais rien faire contre ça. Et j'ai des flashs docteur dans mes cauchemars, je les revois. Elles m'ont niqué le corps et le cœur, elles m'ont pas laissé le choix. Expliquez-moi docteur, je crois pas que le compte soit bon. Après ces temps de bonheur, rien qu'une heure de discussion. J'ai jamais revu docteur, elle m'a embrassé le front. Elle est partie claquer ailleurs, la SACEM de nos chansons. Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? J'suis à quel stade du malheur? Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? J'suis à quel stade du malheur? J'ai plus l'amour docteur, j'veux pas croire que ça m'arrive. Dès qu'on me touche j'ai peur, j'ai le cafard de l'avenir. Putain réponds docteur, ma vie part à la dérive. File-moi une ordonnance, juste un cachet pour survivre. Est-ce que c'est grave docteur? Docteur, je suis à quel stade du malheur? Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Docteur, je suis à quel stade du malheur? Est-ce que c'est grave docteur?
Bonjour madame, asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qui vous amène ?